RMC. 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
GG les grandes gueules sur RMC et RMC Story. Je vous rappelle la prime de rentrée, les amis. C'est l'événement pour jouer et gagner votre prime de rentrée. En jeu, la somme de 25 000 euros qui va grandir, grossir à chaque show d'RMC. Là, avec la roue tout à l'heure, elle a augmenté. Elle est à 26 750 euros, la prime de rentrée. Donc, c'est le moment de vous inscrire en envoyant prime par SMS au 732-16. La prime est à 26 750 euros. Dans chaque show d'RMC, la roue va tourner et ce sera peut-être augmenté de 1000 euros, de 1500 euros, peut-être de 125 euros. Peu importe, la prime augmente et à chaque show, vous aurez l'occasion peut-être d'être appelé et il faudra donner le bon montant. Ça peut être un coup de fil d'ici la fin des grandes gueules. Et à ce moment-là, c'est 26 750 euros qu'il faudra donner comme montant. Donc, vous envoyez prime par SMS au 732-16 pour vous inscrire. Maintenant, c'est la prime à la droite. Qui peut emporter, qui peut l'emporter et qui peut être le candidat de la droite? On a bon nombre de candidats. Est-ce qu'il faut une primaire pour les départager? C'est au 32-16 que vous venez en discuter avec les GG.
J'ai très exactement dit ceci. Je n'ai jamais eu d'opposition de principe à la primaire. Simplement voyant les uns et les autres, pour ou contre le principe, les uns et les autres, ceux qui voulaient une primaire jusqu'à Madame Knafo, ceux qui n'en voulaient pas, ceux qui, etc. Je lui dis, écoutez, moi, je ne perds pas mon temps, je travaille sur le fond. Croyez-moi, la compétition, ça ne me fait pas peur. Simplement, aujourd'hui, regardez, Edouard Philippe n'en veut pas.
Ces 16 aventuriers pensent mériter le titre d'ultime survivant. Tous veulent prendre leur revanche, mais à la fin, il n'en restera qu'un.
Totem d'immunité.
Est-ce qu'il faudra une épreuve des poteaux? Est-ce qu'il faudra les mettre dans un immense champ? Chacun se regarder, tu sais, les yeux dans les yeux, avec les yeux un peu plissés, comme dans Il était une fois dans l'Ouest, ou Le bon, la brute et le truand. Bref, dans tous les cas, ils sont plusieurs à vouloir aller sur la ligne de départ, et ils sont peut-être trop d'ailleurs.
Oui, alors c'est un casse-tête, cette histoire de primaire de la droite et du centre, parce que déjà certains n'en veulent pas, notamment Édouard Philippe, Bruno Retailleau l'a rappelé. Je note que Bruno Retailleau, lui, n'est pas contre. Il dit, s'il faut y aller, j'y vais. Mais imaginez une primaire avec Gabriel Attal et Bruno Retailleau. Si c'est Gabriel Attal qui gagne, vous voyez Bruno Retailleau soutenir Gabriel Attal ensuite dans les meetings, etc. C'est pour ça que c'est toute la limite des primaires. C'est-à-dire qu'on demande à des gens qui pensent pas la même chose de se mettre ensemble et ensuite de se soutenir en fonction du gagnant. La primaire est une machine à perdre, à l'exception de celle qui avait été organisée par la gauche et qui a permis à François Hollande d'être élu. Mais rappelez qu'à l'époque, on était aussi dans un tout sauf Sarkozy, etc., qui avait favorisé François Hollande. Mais sinon, les primaires, on perd. François Fillon a perdu après une primaire, etc., etc. Donc, est-ce qu'il faut vraiment organiser une primaire? Je note aussi que David Lisnard, il est curieux comme garçon, parce que il a refusé de rentrer dans les gouvernements du bloc central, hein, les différents gouvernements, il y en a eu plein là depuis la dissolution. Mais là, tout d'un coup, il veut à tout prix participer à une primaire avec les gens avec qui il voulait pas gouverner. Donc ça,
pour
aussi,
les écraser.
Oui. Enfin, pardon, mais je note quand même un certain paradoxe dans ce que dit David Lisnard. J'en parle parce qu'il était ce matin notre invité.
Attendez, avant de vous donner la parole, il y a Xavier qui est fonctionnaire, qui est du côté des Alpes-Maritimes.
Bah, qui s'est déclaré.
Il est anti. Bonjour Xavier.
Salut les GG, non, c'est pas Xavier Bertrand. Non.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette bagarre droite et centre? Alors dites-moi, il faut une primaire?
Moi, je pense qu'il aurait été bien quand même qu'il y en ait une. Olivier, c'est une erreur de diagnostic. Fillon n'a pas perdu à cause de la primaire. Fillon, il a perdu parce qu'il filait un emploi fictif à sa femme et qu'il récupère des costumes. La primaire, c'est une bonne chose pour se distinguer les uns des autres aujourd'hui. Donnez-moi la différence. D'ailleurs, donnez-moi déjà les idées de Attal et de Philippe réellement. C'est difficile d'y voir clair. Donc, une primaire permettrait de faire cela. Par contre, moi, je pense que le problème, c'est qu'il vient des égos. Ils ont tous des égos tellement démesurés qu'aucun n'a envie d'aller se confronter. Philippe, il était à 30%, on a réussi l'expo de descendre à 12.
Non, il n'est pas à 12.
Il a été élu par 12 retraités internes au LR pendant que Attal de l'autre côté, c'était 15 adolescents qui lui permettaient d'émerger dans son parti dont on ne sait même plus le nom tellement ce truc a changé à chaque fois. Donc une primaire permettrait de se poser un petit peu et d'avoir un débat d'idées. Et Olivier Dysnard, je pense qu'il est plutôt cohérent d'ailleurs, parce que ce matin, je crois qu'il a dit chez Apolline, moi je ne gouvernerai pas avec Attal et Philippe.
Mais bah alors, oui mais alors attendez alors là pardon Xavier, alors là c'est formidable, c'est savoureux ce que vous venez de dire. Oui mais une primaire, vous connaissez le principe d'une primaire, c'est-à-dire que les perdants doivent quand même soutenir ensuite le gagnant. Parce que l'histoire d'une primaire, c'est justement on arrête les divisions et ensuite on est tous on fait corps. Donc vous êtes en train de me dire que Lisnard ne veut surtout pas gouverner avec Attal. Mais si c'est Attal qui gagne la primaire, Lisnard sera obligé de soutenir Attal dans la présidentielle. C'est pour ça que je trouve que les primaires sont des machines à perdre. Et encore une fois, à part François Hollande, tous ceux qui sont passés par les primaires ont perdu, que ce soit bien chez les écolos, à gauche, à droite, Valérie Pécresse, il y en a plein, la liste est longue.
Non mais Pécresse, c'est pareil, moi j'aime beaucoup Valérie Pécresse, c'est adorable, elle a pas perdu parce qu'elle a fait une primaire, elle a perdu ce qu'elle était.
Elle a perdu après une primaire.
Est-ce qu'on peut rappeler son score un petit peu plus de 4
Elle fait moins de 5 points
en même temps.
Non, mais donc le souci n'est vraiment pas, à mon sens, au niveau de la primaire, il est qu'aujourd'hui vous avez une offre qui est beaucoup trop large sur ce qu'on pourrait appeler globalement la droite et le centre.
Parce qu'ils sont différents.
Puisqu'ils sont différents, faisons en sorte que leurs idées émergent. Regardez, vous le disiez ce matin, Lisnard, il n'a pas été invité au MEDEF, il a fait des tables rondes avec Roussel. Roussel n'a pas été invité. Par contre, il y avait l'écologiste
Marine Tondelier.
Tondelier, elle fait 0,001%, voire elle va se rallier à Mélenchon. Donc ça permet pas d'avoir...
Non, ça c'est vrai que c'était bizarre d'inviter Tondelier, pas Lisnard. Ça, c'est...
Et, ou pas Roussel.
Roussel n'est pas en confinement, il va être là.
3% aussi, mais ça permettra de l'avoir. En fait, le problème, c'est qu'on a peur des idées, qu'on est beaucoup sur l'image. Et vous l'avez dit tout à l'heure, je crois que c'est Sandrine qui l'a dit justement. Attal a été bon. Moi, j'ai vu le débat chez vous, d'ailleurs, sur BFM, je pense, en rediff à minuit, sur le MEDEF. Attal a été très bon, parce qu'il a été très bon communicant.
Oui, mais
est-ce que vous pouvez me ressortir
lui,
une idée forte d'Attal dans son programme? Est-ce qu'on peut me ressortir une idée forte de quelqu'un? Donc non, on n'a pas encore entendu, et je suis d'accord avec Alain, là, on est encore en été. Les gens rentrent de vacances. Moi, je suis dans le sud, donc les Parisiens commencent à remonter. Ils vont rentrer chez eux. On n'est pas encore dans le temps de...
Donc, vous voulez la primaire.
Donc, une primaire permettrait, je pense, si elle était aussi bien organisée que celle de la droite et du centre, de partager des idées et que les gens se
fassent d'accord.
Eux-mêmes sur les programmes.
Merci, Xavier, d'avoir été dans les GG.
Merci à vous.
À bientôt, Xavier.
On est dans une grande confusion parce que, entre ce que vient de dire Olivier et ce que vient de dire Xavier au téléphone, on dit un peu des situations.
Mais bref, c'est Xavier, tu sais pourquoi? Parce que Xavier soutient David Lisnard, on l'a compris.
Oui.
Et en fait, la primaire, tu remarqueras, ce sont souvent les seconds couteaux, les seconds rôles qui viennent une primaire pour se faire connaître, etc.
Mais voilà.
Le problème de fond, il est quand même très grave. C'est qui sera présent au second tour face au candidat du Rassemblement National, actuellement Madame Le Pen, peut-être à terme, selon le cours de la justice, Monsieur Bardella. En tout cas, le candidat du Rassemblement National, cela paraît acquis, même avec des fluctuations, sera présent au second tour. Donc, qui sera en face? Si on laisse les choses comme ça, c'est Monsieur Mélenchon. Et là, c'est catastrophique. Parce qu'on a deux candidats qui prétendent pouvoir redresser la France et qui vont la mettre au fond du trou.
Mais comment tu désignes alors le candidat de la droite et du centre?
Ce sont des sondages.
Ou par la primaire, effectivement, ou par des désistements, c'est-à-dire que les gens retirent leur candidature, considérant qu'ils n'ont aucune chance d'être présents au second tour.
Oui, mais regarde, ce que tu dis, ça tient pas, parce que regarde, ils se disputent, on va dire, en quelque sorte... un même électorat. Donc, en fait, ils prennent le risque de s'éliminer mutuellement. Donc, du coup, sur le principe, cette histoire de la primaire, elle est pas si absurde que ça. Parce qu'ils ont quand même des fondamentaux communs. Ils ont la maîtrise des dépenses publiques. Ils ont l'immigration et tout. On voit bien, en plus, avec Édouard Philippe, maintenant, qui va sur le terrain de l'immigration avec Mayotte, etc. Bon, Retailleau, Philippe, c'est pas du tout la même chose. Après, ils sont pas interchangeables. On voit bien que Lisnard est libéral.
La seule nuance, Sandrine et Olivier, c'est qu'en fait, des désistements, c'est-à-dire des retraits de candidature et qu'il en reste donc qu'un leader, est un moindre soutien que l'issue d'une primaire où les gens sont censés soutenir Mordicus, le candidat.
Mais c'est là où justement ça tient pas. Et donc je disais que sur le principe, j'étais pas contre, mais je suis sceptique sur le fait que ils veulent signer une charte comme quoi donc il faudrait être loyal et incontestable et donc respecter le verdict. Mais juridiquement, ça a pas de poids, ça n'a aucune force juridique.
Oui.
Donc c'est pour ça que je suis sceptique.
Oui.
Sur le principe, c'est pas mal, mais
par clin d'œil, c'est le type qui se retrouve en voie d'être élu et qui dit à notre homme politique ou femme politique, tu seras mon premier ministre. Il le dit à trois personnes et il a un contrat.
La primaire, est-ce que c'est pas le premier tour élection présidentielle?
Non, mais par contre, il y a un sujet, c'est que Retailleau, il a pas voulu de primaire dans son propre parti, mais là, il en voudrait bien une avec les autres. Et sachant que si tu regardes les noms.
Attal, au départ, il voulait pas, et maintenant, il a un petit peu plus.
Si tu regardes les noms, à part Attal, ils sont tous du même parti. Hein. Parce que Philippe Retailleau, Lisnard, Bertrand, au départ, ils étaient tous...
Ah oui, c'est la droite.
Bah ouais. Et donc, en fait, ça veut dire qu'un parti aujourd'hui qui a fait 3%, 4% dernière présidentielle, ils vont te faire une primaire. Bah, qu'ils fassent une primaire avec les écolos, avec Roussel, en fait.
Bah non, la primaire, mais non, c'est dans ton camp.
Mais c'est ton camp de quoi? C'est ton camp de qui, en fait? En fait, tu sais pas d'où
ils sont. La droite et le centre.
Non, mais c'est des gens qui ont fluctué depuis 10 ans avec Renaissance, et tu sais pas où ils sont, en fait. Et je veux dire, moi, ce que je comprends pas, c'est que Lisnard, ils veulent se coller là-dedans. Après, Lisnard, il a pas de parti. Une campagne, il faut des ronds.
Je pense qu'il va enfin décoller.
Non, mais
Lisnard,
il a pas de parti. Donc, il faut qu'il trouve un parti qui le pousse au cul. Mais là, pour l'instant, il l'a pas. Mais là, on vit donc, là,
il a son parti, mais...
Là, le seul qui avait un truc à dire, c'était Lisnard. Parce que Lisnard, depuis le départ, il arrête pas de nous dire qu'il est différent des autres. Les autres, là, ils ont tous été avec chez Macron. Ils ont tous mangé dans la gamelle. Ils ont tous pourri la France. Et ils te disent aujourd'hui, c'est comme quand tu reçois Bruno Le Maire ici, qui te dit, non, mais moi, si j'étais au gouvernement.
Il est pas seul, Lisnard. Bertrand n'a pas non plus été dans les derniers gouvernements.
Bah, c'est ce que je suis en train de te dire.
Xavier Bertrand, il dit ça.
Et Retailleau l'a été en cohabitation, c'est encore autre chose.
Mais Retailleau, il était avec eux. Quand tu manges dans la gamelle, tu deviens.
Et ça, c'est mal fini.
Faut arrêter.
Non,
tu peux pas faire de la politique.
C'est passé avec l'immigration.
Oui, mais là, je pose la question à Alain et Olivier, une fois n'est pas coutume. Est-ce qu'il est concevable qu'Edouard Philippe, Attal et toute la clique acceptent cette primaire?
Mais pour l'instant, non, parce qu'Edouard Philippe pense qu'il est quand même, étant toujours en tête, il n'a pas besoin de la primaire. En fait, la primaire, encore une fois, ceux qui la réclament, ce sont les losers. Hein. Je suis désolé de parler comme ça, mais en général, quand t'es en tête, t'as pas besoin de primaire. Mélenchon, il a pas besoin de primaire. Marine Le Pen, il n'a pas besoin de primaire. Emmanuel Macron n'avait pas besoin de primaire. Et je suis désolé. Ceux qui exigent à corps à cri des primaires, c'est des gens qui n'arrivent pas à émerger, qui ont besoin de. Ils se disent, grâce à la primaire, je vais réussir.
T'as entendu ce qu'a dit Hollande? Hollande, il a dit, pour l'instant, je bouge pas, mais si. Même après l'issue de la primaire, bon, votre candidat, machin, je viendrai. En fait, c'est exactement ça. Hollande, en fait, ce qu'il va faire, ils vont laisser sortir Glucksmann, certainement.
Hollande, il sera... Glucksmann, il y a Faure aussi.
Hollande, il sera obligé de la primaire.
Aussi, arriver, hein.
Comment Hollande ne peut pas aller à la primaire socialiste?
Hollande, il va dans une primaire.
À mon avis, il ne sera pas candidat.
Non, mais Hollande, il est moins con, il n'est pas plus con que nous. Il a très bien compris que c'est une machine à perdre.
Donc, il va dire à son parti social, à son parti, hein.
Mais c'est pas son parti, hein.
Le parti socialiste, il l'a même dirigé pendant plus de 10 ans.
Oui, mais c'est plus ça.
Donc, il va dire au PS, écoutez, je n'accepte pas vos règles. Vous avez choisi un candidat. Les militants ont choisi un candidat. Mais non, c'est moi.
Ça va être encore plus vicieux que ça.
Ben oui.
C'est-à-dire que François Hollande, il va pas se présenter à la primaire. Je trouve que l'article qui lui est consacré dans Le Point, c'est vachement bien d'ailleurs, avec la une qui s'appelle L'Embusqué. Il va attendre de voir s'effondrer Raphaël Glucksmann.
Ça, c'est un pari alors.
C'est pas un pari, c'est l'avenir.
Mais c'est le pari de L'Embusqué, de celui qui est planqué, qui regarde comment les événements tournent. Et puis tu sors à ce moment-là et tu mets le coup fatal.
Il va lui mettre des bâtons.
Il est là-dessus. Il va regarder Raphaël Glucksmann descendre dans les sondages. Lui, petit à petit,
il a fait ça. Je rappelle qu'il a fait exactement ça avec Hinalgo et ça a raté.
Il a fait ça avec sa femme aussi.
Je rappelle qu'Hollande regardait Anne Hidalgo s'effondrer, se préparer pour prendre sa place.
Il va réessayer.
Nous sommes en janvier 2022.
Il va réessayer.
Et ça n'a pas marché.
Mais bien sûr, il va réessayer quand même.
Ça fait plusieurs mois qu'il est en train de préparer son truc pour la rentrée. T'inquiète pas.
En tout cas, ils doivent manger des bananes pour garder les pots.
J'ai juste l'impression que vous oubliez quelqu'un dans la France. Moi, j'entends les gens qui disent qu'ils font François Hollande à gauche. Je te dis pas qu'il y a une demande.
Je dis simplement que lui, il va essayer de faire.
Ah oui, d'accord.
Voilà, il n'y a pas de demande, moi, à sa place. Je voudrais retirer de la vie politique.
Il faudra qu'il explique quand même au Parti Socialiste pourquoi il a refusé de son propre parti.
Valls, il a fait quoi? Valls, il fait une primaire, il perd contre Hamon. Après, il dit je voterai pas pour Hamon, je voterai pour Macron.
Ah oui, c'est des arguments pour dire que les primaires, c'est une connerie. Le PS
n'a fait que retourner sa veste ces dernières semaines et ces derniers mois. Donc, ils seront plus à un retournement près.
Le PS, c'est quoi aujourd'hui? C'est 3%, 2%.
Alors, Maxime, il est lycéen, 18 ans, il nous écoute, il veut intervenir dans la discussion.
La nouvelle génération, on adore.
Bonjour, Maxime Delorne.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que vous en dites, Maxime? Est-ce qu'il faut une primaire?
Je trouve que dans votre débat, il manque un élément quand même, que je n'ai pas beaucoup entendu. On parle beaucoup de primaire, mais à mon sens, il n'y en a pas besoin, en fait. On a aujourd'hui un candidat qui s'appelle Edouard Philippe et qui est en mesure de rassembler à la fois le centre et la droite. Il y a Gabriel Attal qui est plutôt du centre, mais lui, il n'aura jamais les voix de droite. Même s'il se retrouve à un moment donné devant, dans les sondages, devant Edouard Philippe, dans leur petite compétition... Il n'aura jamais les voix de droite.
C'est un ancien du Parti Socialiste.
Allez-y. À l'inverse, Bruno Retailleau, il n'aura jamais les voix du centre parce qu'il est extrêmement conservateur. Il est beaucoup trop à droite. Et je pense qu'il ne peut pas rassembler. Il y a un candidat qui est pile dans le bon espace, au milieu, c'est Edouard Philippe. On voit d'ailleurs qu'il y a des ralliements qui commencent à arriver à droite. Peut-être bientôt Jean-François Copé, Valérie Pécresse, etc. Il y a énormément de ministres Renaissance. Quasiment tous les ministres Renaissance nous rejoignent.
Donc, je vois pas pour l'instant, il n'y en a que trois qui l'ont déclaré, officiellement.
Mais il y en a énormément comparé au nombre de ministres qu'on est.
Officiellement, il y a trois.
Non, mais pardon, vous êtes en train de nous dire, vous êtes en train de nous dire que là, les Français après 10 ans de Macronie vont prendre son premier ministre. Non, mais vous là, vous rêvez entièrement.
Moi, je pense des électeurs de droite.
Oui, mais les électeurs, ça va être la même nouvelle.
Vous oubliez quand même. Je ne sais pas qui parle, mais vous oubliez quand même.
C'est le Conseil qui est très énervé.
Vous oubliez quand même que Édouard Philippe, sur ses années de mandat en tant que Premier ministre, il a eu plutôt des bons résultats. Je suis désolé de vous dire, mais il a fait réduire le déficit. Je suis désolé de vous le dire aussi, mais il a stabilisé l'augmentation de la dette.
C'est vrai.
Je suis désolé
Il a incarné ce qui a marché dans la Macronie dans le premier quinquennat.
Je suis désolé de vous dire, mais niveau éducation, il a eu des très bons résultats. Il y a eu une hausse massive des apprentis, il y a eu des dédoublements de classe. Je ne peux pas vous laisser dire, en fait, qu'Edouard Philippe, il a un si mauvais
mandat. Blanquer, c'était le ministre de l'éducation que les gens aimaient. On a sorti les mathématiques du programme des terminales. C'est vrai que c'était vraiment une réussite. Après, moi, je pense, mais après, on en verra plus tard.
En même temps, c'est pas toi qui voteras la primaire du droit et du centre.
Ben si, moi, j'ai vu. Alors, les socialos, faut que je paye. J'ai vu. Bon, faudrait que je paye.
Tu vas voter à la primaire.
Moi, je vais voter partout. Je vais prendre ma carte d'électeur.
Donc toi, tu ne votes pas.
J'ai décidé que j'ai prendre ma carte
pour les autres.
Oui, voilà. En tout cas, est-ce que
comme ils avaient fait la dernière fois avec
est-ce qu'on peut féliciter Maxime parce que Maxime a 18 ans et il s'intéresse déjà à la politique et franchement, je trouve que c'est un modèle
Maxime,
pour les jeunes.
Il dirige
franchement,
bravo. Les jeunes avec Edouard dans l'Orne.
Oui, mais bon, au moins
c'est ça Maxime.
Pas exactement.
Bravo Maxime, franchement.
Je suis en fait référent des jeunes avec Édouard lycéens. Ce n'est pas la même chose.
Mais c'est bien.
Déjà, on apprend qu'il y a des lycéens qui sont derrière Édouard Philippe.
Et vous savez qu'on est beaucoup. Je lance un appel à tous les lycéens de France. Engagez-vous en politique dans n'importe quel parti que ce soit.
C'est bien.
Franchement, bravo.
Bravo Maxime.
Non, vraiment fier de vous.
C'est toujours bien de s'engager.
Mais bien sûr,
qu'est-ce que c'est que les bracelets qu'un votre champion toujours au poignet.
Choc ça.
En fait, c'est des cadeaux, il faut savoir. Les
alors, le bracelet, il sera plutôt...
Ah bon. Oui, mais ça fait mauvais genre.
C'est plutôt Marine Le Pen qui a eu avant.
Je suis pas d'accord avec vous.
C'est apprécié chez les jeunes avec Édouard, alors.
Pardon ?
C'est apprécié chez les jeunes avec Édouard.
Mais oui, c'est comme ça qu'il les séduit.
Pas spécialement.
Non, mais il n'a pas tort dans son analyse. Sur le papier, Édouard Philippe est mieux placé pour réunir la droite et le centre. C'est pas dire qu'il le fera.
Merci Maxime et à bientôt. Je compte sur vous pour revenir dans nos discussions, Maxime.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir été avec nous, Maxime. Alors, est-ce qu'il faut une primaire à la droite et au centre ? Oui ou non ? On va voir. Oui, bonne idée, 54,6. Dans un instant, sujet de discussion. Intéressant sur la manière dont aujourd'hui les Français ont roulé. Ce sont les sociétés d'autoroute, notamment Vinci et Fage, qui l'ont remarqué. Les Français ont moins pris l'autoroute. Un, parce que l'essence était beaucoup, beaucoup trop chère. Et deux, peut-être qu'il y a un autre mode qui consiste à rouler en s'éloignant, peut-être un peu des sentiers battus.
C'était la chanson de Barbelivien, quitter l'autoroute.
Il est 11h20.
Il faut la rejouer cette chanson.
Est-ce que vous avez évité l'autoroute cet été pour des raisons financières? 32-16 pour en parler avec les Grandes Gueules.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules. 1, 2, 3, 4.
Il est 11h25, vous discutez avec les GG, avec les Grandes Gueules en direct sur RMC et RMC Story avec Bruno Poncet, Sandrine Pégan et avec Emmanuel Devilliers. Vous discutez avec nous via le 32-16 bien sûr, et notamment pour parler de la manière dont vous, les Français, dont nous avons roulé cet été et on est un peu sorti de l'autoroute.
L'autoroute ? C'est quoi l'autoroute ?
Emmanuel Devilliers dans sa décapotable avec son pull noué sur les épaules qui sort de l'autoroute comme ça en fredonnant. Quitter l'autoroute.
Cheveux au vent.
Alain, t'es d'accord avec moi, la plus belle chanson d'autoroute c'est Autobahn de Kraftwerk.
Bon, alors effectivement, les Français sont sortis de l'autoroute. sûrement pour des raisons pécuniaires.
Bah oui, parce que le carburant aujourd'hui, qui a explosé depuis le printemps dernier, explique en grande partie pourquoi il y a une baisse du trafic constatée sur les autoroutes cet été. Il y a un chiffre, on peut faire un comparatif. Si on prend un trajet Paris-Lyon, donc 460 km. En 2021, tu payais 35,80 le péage. Aujourd'hui, c'est 41 euros. Donc, tu as déjà le péage qui a augmenté de 15%. Le carburant, tu faisais un plein 55-60. Maintenant, c'est 75-85 pour faire Paris-Lyon. Donc, c'est plus 30%. Donc, forcément, péage plus carburant, et surtout carburant, maintenant, prendre l'autoroute, ça devient un luxe. D'ailleurs, c'est assez intéressant, c'est que le trafic des automobiles, enfin des particuliers, a baissé, alors que le trafic du transport routier a augmenté. Donc l'autoroute devient finalement maintenant la voie pour le transport routier, et les automobilistes qui ont moins de moyens prennent les nationales.
Oui. Alors c'est un éternel recommencement, car je me souviens, peut-être vous n'avez pas connu ça, mais que dans les années 70... Il y a beaucoup de vacanciers.
Après le choc pétrolier.
Je me souviens d'amis de mes frères qui étaient dans l'armée, notamment des militaires d'active, qui disaient, moi je ne prends pas l'autoroute, j'ai pris telle route, c'est beaucoup plus long, parce que c'était considéré comme trop coûteux. Donc c'est un peu un éternel recommencement.
Oui, mais bon, je vois pas le rapport, parce que de toute façon, si c'est plus coûteux par rapport au péage, mine de rien, après, tu dépenses de l'essence. Donc, où est-ce que c'est plus avantageux de prendre
Global, avec un parcours qui est pas forcément beaucoup plus long
en
termes routiers. Mais non, il y a une économie marginale importante qui revient maintenant, effectivement. C'est vrai que ça devient très très cher. Et si on s'arrête de prendre du carburant à 2,55 pour du gasoil, ce qui est arrivé sur des stations, c'est hors de prix.
En fait, si tu prends les... Moi, faudrait pas que je prenne les nationales, parce que je pense que je m'arrêterai dans toutes les auberges. ça reviendrait.
Plus cher, parce que
beaucoup plus cher que de prendre les sandwichs triangles, sur l'autoroute.
Il faudrait que tu sois avec un gastro-entérologue, en plus.
Oh, purée. Tu t'arrêterais au national pourquoi? Pour boire un petit coup?
Je me ferais ça avec la carte, si tu veux, des domaines, la carte de France, des auberges, des bons endroits où tu peux acheter du vin, etc. Ça reviendrait beaucoup plus cher. Sandrine, et Bruno, alors, c'est vraiment une question de pouvoir d'achat et d'argent.
Ouais. Ah oui, je pense. Mais, je veux dire, quand t'imagines que partir en week-end avec ta voiture ou traverser la France en voiture, maintenant ça devient un budget entre l'essence et le péage. Oui, c'est problématique. J'ai l'impression aussi que quand tu veux voyager en train, ça coûte une fortune. Donc oui, qu'est-ce qu'on fait?
Les billets ont
maintenant augmenté, tu veux faire un Paris-Lyon, ça, je veux dire, même en classe éco, ça coûte une blinde.
Pas forcément, t'as des trains, t'as des Ouigo, si tu veux payer pas cher.
Ouais, alors les Ouigo, donc t'as pas de poubelle, t'as pas de bar.
La classe éco, ça n'existe pas dans le train.
Non, non.
Ouais,
non.
Oui,
c'est
en
quoi
plus.
La classe éco, ça n'existe pas.
Non, c'est la seconde classe.
Ta première, mais deuxième classe.
Fait, pour Sandrine, quoi, tout doit être première classe.
Oui,
partout où elle va, les portes doivent s'ouvrir automatiquement.
C'est vrai que j'aimerais bien. J'avoue que tu l'as. Ne me tente pas, parce que
c'est une réclamation.
Un liftier doit lui prendre son bagage.
Mais oui, c'est à peu près ça.
Mais ça serait tellement pratique. Ça serait idéal.
Alors non, attends. On a Emmanuel qui est avec nous. Emmanuel, bonjour.
Oui, bonjour. Vous m'entendez bien?
Oui, très bien, Emmanuel. Vous avez évité les autoroutes tout l'été?
Tout cet été. À part le soir des vacances, le 3 juillet.
Ouais.
Parce que j'étais pressé d'arriver à destination. J'ai fait deux allers-retours Bordeaux-Carcassonne sans autoroute, avec mes gamins.
D'accord.
Tranquille, j'ai pris le temps de prendre le temps de redécouvrir la France. Je suis passé à travers le Gers, à travers le Tarn-et-Garonne, à travers le Lot-et-Garonne. On a pique-niqué dans des vergers, en forêt, au bord de la Garonne. Ils se sont régalés.
Vous avez mis combien de temps?
Au final, en entendant le thème du sujet ce matin, j'ai fait mes calculs. Je ne l'avais pas fait auparavant, hein, mais ça m'a donné l'occasion de constater que j'ai économisé 200 euros.
Ah, quand même.
140 euros de péage. Un Bordeaux-Carcassonne, c'est 33 euros. Et 60 euros de gasoil, puisque sur la route, on fait du 4 litres au lieu du 6 litres sur autoroute.
Ah, c'est sûr.
Eh oui, parce que vous roulez un peu moins
vite. Mais vous avez mis combien de temps pour faire ce trajet?
Alors, j'ai mis tranquillement entre 6 et 7 heures au lieu de 2h50 par trajet. Mais je le regrette absolument pas. Quand on a le temps, je pense que c'est quand même quelque chose qui est particulièrement agréable.
Ouais, mais d'accord. Quand on a le temps. Voilà,
quand on a le temps.
Emmanuel, il y a eu les économies et le côté agréable de prendre le temps de regarder le paysage. Et Emmanuel, on a Asdine qui est avec nous aussi. Bonjour Asdine.
Bonjour à tous.
Ça va Asdine, du côté du Bas-Rhin. Vous avez entendu ce qu'il a fait Emmanuel. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait alors?
J'ai fait exactement la même chose. C'est-à-dire que j'ai fait... Alors moi, je pars de Metz et je suis descendu sur la Côte d'Azur. Donc j'étais sur Nice et Cannes. Mmh. Et au lieu de mettre 7h30, 8h à peu près, j'en ai mis 12.
D'accord.
Donc j'ai économisé sur le trajet aller 93 € en péage. Et bah, pareil, en termes d'essence, j'ai beaucoup moins consommé parce que je roulais beaucoup moins vite, forcément. Mmh. Ensuite, ce qui est agréable en passant par les routes nationales et les départementales, c'est qu'aussi on découvre des petits villages et on découvre des paysages magnifiques. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un pays qui est très beau. On a des beaux paysages, de belles montagnes, de belles plaines, de belles campagnes. Donc c'est aussi l'opportunité pour les voir. Et puis, petite anecdote, en passant cette année par les routes nationales et départementales, je me suis arrêté dans un petit village perdu des Hautes-Alpes, et en rentrant dans un bar tabac, je tombe sur Eric Cantona.
Comme quoi.
Sympa, ça,
j'ai croisé Eric Cantona avec son frère, son père, il devait y avoir sa sœur également.
C'était donc, lui ou c'était un sosie?
J'ai la photo, je peux vous l'envoyer si vous voulez.
La confiance n'exclut pas le contrôle.
L'année prochaine, ça sera peut-être Xavier Bertrand.
Mais Asdine, une chose, parce que vous dites, voilà, j'ai économisé le péage, j'ai économisé de l'essence, mais est-ce que les nationales, les départementales, est-ce que les routes sont en bon état?
Ouais. Eh ben, écoutez, j'ai envie de vous dire que par là où je suis passé, en tout cas en passant par les Hautes-Alpes, etc., les routes sont dans un très bon état. Je passe par des petits villages qui sont très bien entretenus, donc j'ai pas eu de soucis. Oui.
Alors si on prend quand même en compte la maintenance du véhicule, il y a certainement un surcoût de pneumatique ou autre qui vient amputer un petit peu votre économie. Néanmoins, vous avez grandement raison.
Ah, enfin, c'est rien.
Mais alors, Azedine, est-ce que vous avez vu plus de monde? Alors du coup, est-ce que le trafic était plus dense sur les nationales?
Non, j'ai roulé à vitesse tout à fait normale. Et puis aussi,
Mais le trafic, il était dense. Il y avait
pas du tout. D'accord. Pas spécialement. Alors peut-être que les gens continuent encore de prendre beaucoup l'autoroute sur la route des vacances.
Ouais.
Là où aussi on fait des économies, il n'y a pas que les péages, mais il y a aussi les stations-service où l'essence est aussi beaucoup plus chère. Vous avez aussi le forfait repas. Si vous prenez un petit sandwich, un sandwich triangle, vous payez 12 € en station-service d'autoroute, là où il coûte 3 ou 4 € si vous arrêtez dans un Intermarché. Donc,
gagnant.
Il
faut avoir du temps.
Mais voilà, c'est avoir du temps.
C'est ça aussi. C'est un moment
quand t'as 3 semaines de vacances, d'accord,
c'est peut-être changer de vie aussi.
Bon,
c'est peut-être arrêter cette vie où tu cours tout le temps pour. Enfin, quand t'as une vie de Parisien, t'as une vie de con. Tu cours tout le temps après ton métro, après ton truc, après le boulot. Alors que là, tu vois, tu prends le temps.
Tout est millimétré.
Un moment donné, l'éloge d'une vie moins rapide, d'une vie plus où tu prends un peu le temps de vivre. Ok, tu vas peut-être mettre 2 jours pour descendre sur ton lieu de villégiature, mais au moins, t'auras vécu un peu.
Non, mais Bruno, quand t'as une semaine de vacances, quand tu penses déjà qu'il faut 2 jours pour compter sur le trajet, l'aller et le retour, excuse-moi, ça t'empiète énormément sur tes vacances.
Je pense qu'Azedine, vous avez fait ça.
C'est parti des vacances.
Super.
Et puis vous avez fait ça sur.
Je me suis arrêté, moi j'ai un chien. Donc on s'est arrêté, on s'est baladé avec le chien dans la forêt.
Mais oui, mais c'est ça qui est cool.
Champs, c'est génial.
Et vous, oui, la vie elle est là.
Ça fait partie des souvenirs.
Mais vous avez fait ça.
Avec des enfants.
Oui. Non, j'ai pas ça. Encore d'enfant, non.
Ah, voilà, oui. Parce que là, attendez.
Mais oui,
attendez. Le père de famille, attention,
les
enfants. Le jour où Azedine aura deux mômes derrière qui passent.
Avec le chien.
Qui passent le temps à se taper dessus. Le chien qui bouffe la banquette arrière. Je peux vous dire que vous allez très vite reprendre le tour.
C'est ça, voilà, c'est exactement.
Azedine, vous avez fait ça parce que vous aviez quoi? 3 semaines de vacances, 15 jours de vacances?
Sûr.
Vous serez pressé.
Oui, j'avais 15 jours, mais je suis resté, franchement, sur place, je suis resté 7-8 jours sur la Côte d'Azur et là je remonte.
Bon, et entre Nice et Cannes, je sais ce que vous avez préféré, c'est pas la peine de le dire. Merci.
Ce qui est charmant aussi, on le voit encore, mais c'est très rare. Ce sont les voitures en période de vacances qui ont les vélos
sur le toit.
Il faut pas l'oublier parce que quand tu passes sous le pont avec les vélos,
ça arrache
le toit et les vélos.
Parce non, mais que les toits, ça se met plus sur le toit, les gars. Ça fait longtemps que vous avez pas été
ça se met sur l'arrière.
Oui, oui, mais il y en a encore. J'en ai vu cet été et ça a un charme.
C'est la belle-mère que tu mets sur le toit.
Non, la belle-mère, tu l'oublies sur l'air de. Je salue ma belle-mère, elle suit les grandes gueules et elle a toute mon affection.
Et son prénom?
Elle s'appelle, ça ne s'invente pas mon cher Bruno, Marie Chantal.
Écoute, ça c'est de la vraie chanson d'autoroute. Ça, c'est Kraftwerk.
Ouais, mais quand tu fais 12 heures de route, tu fais pas
de Autobahn.
Et ça, je veux dire... Ouais,
t'écoutes ça sur la route.
Bien sûr, mais quand tu roules.
Moi, je prends pas les nationales. J'y vais vite. Je prends l'autoroute.
Au contraire, ça me crispe.
Retourne écouter l'autre, là. Va la voix nous.
Mettez-nous un peu de barbelie.
C'est vrai que Bordeaux-Carcassonne, l'auditeur indiquait 33 euros, c'est hors de prix.
Oui, c'est cher.
Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, dernier sujet de discussion à propos de l'écriture. Pourquoi ? Parce que dans les fournitures, certains profs mettent encore le stylo à plume. Alors qu'on a avec les cartouches, on a pu l'encrier, bien sûr.
Barbare le fait, non ?
Mais même si on l'utilise plus, ce stylo à plume, est-ce qu'il faut continuer de le mettre dans les fournitures ? Est-ce qu'on écrit mieux avec le stylo à plume qu'avec le stylo bic ? 32-16 pour en parler avec les grandes gueules, il est midi moins 25.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
Pour prendre la parole avec les grandes gueules, là, il nous reste 10 minutes. C'est le 32-16 avec Sandrine Pégan, Emmanuel Devilliers et Bruno Poncet, une avocate, un cheminot et un entrepreneur, notamment pour parler du stylo à plume.
Attendez, je vous lis. Ah, l'écriture lamentable.
Je te donne la plume pour vous savoir.
Les attaques.
Parler, écrire et danser pour rester vivant.
Non, c'est les attaques.
Bien éveillé.
Le premier album, je crois.
Alors en fait, depuis les années 70, le stylo à plume n'est plus obligatoire. Sauf que bon nombre aujourd'hui encore d'enseignants disent qu'il faut l'avoir dans les fournitures scolaires. Mais est-ce qu'avec le stylo à plume, on écrit mieux qu'avec la bille ?
Ben, c'est en tout cas, c'est ce que disent les enseignants qui réclament effectivement. Alors, il n'y a pas de caractère obligatoire, hein, mais il y a les enseignants qui demandent, surtout en primaire, au collège, des stylos à plume parce qu'ils disent qu'il y a des raisons pédagogiques à cela. Le stylo à plume oblige à exercer moins de pression sur le papier, ça favorise une écriture plus fluide et ça peut aider à acquérir un geste régulier. Parce qu'en plus, on est maintenant dans un monde où on écrit de moins en moins, on tape, on n'écrit plus.
Ouais.
Ça permet aussi d'utiliser un effaceur, ce qui n'est pas le cas avec un stylo à bille, ce qui permet de corriger et de rendre une copie plus propre. Après, le problème, c'est que les parents n'utilisent plus de stylo à plume. Alors, est-ce qu'il faut continuer à demander à nos enfants de savoir écrire avec un stylo à plume ?
Est-ce que tu as un stylo à plume,
oui,
Emmanuel ?
Oui, j'en ai plusieurs.
Tu t'en sers à quelle occasion ?
Alors, je m'en sers moins que dans le passé, mais le problème du stylo à plume, c'est la compatibilité des cartouches aussi.
Ah oui,
car on achète 45 cartouches, mais c'est jamais le bon modèle.
Ah, ça.
Non, je rejoins ce qu'a dit de manière très brillante Olivier Truchot.
Merci, Emmanuel.
Sur un sujet d'une gravité vraiment toute particulière pour conclure cette émission. Mais ce que j'indique, c'est que dans le monde des affaires et de l'entreprise, alors c'est un peu vieux jeu, mais ça reste vrai, parce que ceux qui ne le font pas manquent de culture et manquent d'impact. Pour envoyer une lettre ou pour signer un contrat, il faut signer avec un stylo à plume, parce que le stylo bic, le stylo à bille, n'a pas du tout la même gueule de signature. C'est vraiment pour les malotrus. La vraie signature, c'est avec un stylo à plume, et on peut la vérifier après en mettant un peu de salive pour voir que ça a été bien signé, etc.
Comme ça, tu salopes le truc, après
c'est
sympa.
Mais du coup, après, t'as un bavoir.
Manuel ne lui montrait jamais un écrit parce qu'il
a toujours signé l'ensemble de mes courriers dans plein d'entreprises et avec des courriers qui étaient très graves, très importants pour les entreprises ou différentes situations. Très anciennement, on dictait même le courrier. J'ai connu la sténo, c'est-à-dire des secrétaires qui étaient capables. On parlait et en sténo, c'est-à-dire en langage imagé, elle était capable de prendre le courrier et de revenir avec le courrier tapé. Alors évidemment, l'informatique a balayé tout ça, mais il faut toujours signer et mettre éventuellement une formule, comme le font très bien les politiques qui sont experts, avec mes amitiés ou je ne sais quoi, rajouter un petit mot à la fin du courrier à la main et signer avec le stylo.
Donc il vaut mieux pour les enfants préconiserais qu'on l'a.
Oui, j'ignorais ce qu'a décrit Olivier de manière très fine, à savoir que ça aide à une écriture plus déliée ou une maîtrise.
Alors c'est amusant, c'est que l'éducation nationale ne recommande pas le stylo à plume, aussi pour des raisons de coût. Donc ce sont les enseignants qui prennent la liberté de demander dans les fournitures le stylo à plume. Certains enseignants.
Du coup, et je me tais ensuite. Moi, j'ai eu des stylos. On m'a offert des stylos de luxe, mais on a le problème des cartouches. J'ai acheté parfois des pots Et alors quand on remet avec le truc, on s'en fout partout.
Ouais, c'est ça,
absolument
c'est
dramatique.
Bah bon, quand il y avait les encriers, c'était pire.
Par rapport au coût, à la fin, ces dernières années, j'ai acheté des stylos à plumes tout à fait d'entrée de gamme dans le supermarché. Et en fait, on signe aussi bien qu'avec un stylo de grande marque. Et on a toujours ce caractère de prestige du stylo à plumes.
Mais est-ce que c'est dépassé, ringard, le stylo à plumes, ou est-ce que ça a encore ça a l'intérêt de l'utiliser, Sandrine? Ben, dans ton métier, tu l'utilises?
Vous m'avez donné envie de l'utiliser à nouveau. Alors, j'en ai un, il est dans mon tiroir, ça fait quelques années que je ne m'en suis pas servi, et là, ben, je me dis que ouais, finalement, c'est pas ringard. Et j'ai envie de défendre le stylo plume, en tout cas pour les gamins. Je pense que c'est vraiment une bonne chose, parce que du coup, ça va les apprendre à soigner une copie, à mieux écrire, à faire attention. Après, bon, il y a quand même certains
buvards,
jeunes.
Hein. Faut avoir le buvard aussi.
Oui, il faut avoir le buvard. En plus, tu peux avoir des beaux buvards. Mais en revanche, tu as des élèves qui malheureusement, soit ils sont gauchers, c'est un peu compliqué, soit ils ont des problèmes avec la coordination, tout ça. Donc l'imposer, je suis pas certaine que ce soit une bonne chose, surtout pour eux. Mais je trouve qu'en tout cas, ça aurait
Bruno, Bruno, il a signé tous ses contrats avec le stylo à plumes, avant d'écouter Bruno.
On a un 32-16 qui vient de Norvège et c'est Alexandre qui est électricien en Norvège. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour. Vous nous écoutez en direct là en Norvège là en ce moment via Internet?
Exactement.
Merci de votre fidélité. Vous êtes où en Norvège? À côté d'Oslo, d'accord. Depuis longtemps?
Ouais. Depuis plus de 4 ans maintenant.
Et pourquoi vous avez choisi la Norvège, dites-moi?
Par amour. C'est ma compagne qui est norvégienne, donc je l'ai suivie et j'en suis très content.
Vous êtes heureux en Norvège?
Vous êtes en deuil aujourd'hui?
Pardon?
Vous êtes en deuil aujourd'hui?
Le roi de Norvège, je viens de mourir.
Le temps aussi est un peu en deuil. Là, c'est vraiment très gris.
Alors, pourquoi vous vouliez réagir au stylo plume, dites-moi, Alexandre?
Alors, déjà, parce que M. Devilliers avait dit en tout début de votre émission qu'il utilisait ça pour faire des signatures. Sauf que dans la plupart des administrations maintenant, ils demandent à signer avec un stylo bille noir afin qu'on ne puisse pas effacer l'encre du stylo plume.
On ne peut pas falsifier.
Et donc, comme on ne l'utilise plus du tout, je ne vois pas trop l'intérêt pour les enfants d'utiliser ça.
Oui, comme m'avait dit un jour un prince, la classe se perd.
Mais et en plus, aujourd'hui, on est en train de passer aux signatures électroniques, Alexandre.
Exactement. Chez nous, en Norvège, c'est que en signature électronique. On ne fait que par signature électronique. Il n'y a aucun papier. On fait pratiquement tout par Internet.
Mais vous avez encore des stylos, vous? Vous utilisez le stylo au quotidien ou pas?
Pratiquement pas, non. Même pour les plans en électricité, on utilise des applications. Rarement. Très rarement. Oui.
C'est vrai que petit à petit, l'écriture se perd, mais d'une manière générale. Alexandre, je vous remercie de nous avoir appelé, d'avoir pris du temps de la Norvège. Merci. Puis à bientôt. Ce sera intéressant, tiens, à un moment de vous avoir peut-être au moment des présidentielles pour comparer le modèle norvégien et le modèle français.
Alors, on n'a pas de présidentiel chez nous, mais
non, parce que vous avez une monarchie,
le modèle économique et social norvégien.
Ah ben là, les Norvégiens. Moi, j'étais en Norvège. Je peux vous dire
Monsieur voyage.
Oui, quand tu voyages en Norvège, tu es pauvre. Quand tu es français en Norvège, tu es un pauvre.
C'est vrai, Alexandre.
C'est un peu ça, oui.
Ah oui, le niveau de vie n'est pas le même. Hein.
Ils ont du pétrole.
Oui, et puis surtout, ils ont du pétrole, mais c'est une démocratie. Contrairement à d'autres pays qui ont beaucoup de pétrole, mais qui n'ont pas choisi cette voie démocratique.
C'est le gouvernement qui prend et puis redonne. D'ailleurs, heureusement qu'ils ont le pétrole, parce que ça leur permet d'avoir l'argent pour...
Ils ont un fonds.
C'est le premier fonds mondial.
Et ils sont souvent cités en exemple sur plusieurs secteurs, notamment l'éducation, etc.
Merci.
Je vous conseille d'aller voir la Palme d'Or, Fjord. Ah, le cinéma qui se passe en Norvège et très bon film, excellent film, et on voit aussi la société norvégienne.
Alors là, attention, nous allons vivre un sacré moment parce que nous avons Marie Chantal au téléphone.
Oh.
Marie Chantal, bonjour.
Elle appelle maman d'Emmanuel.
Bonjour, retraité de l'enseignement, mais dans l'Hérault, il a eu peur, il croyait que c'était sa belle-mère.
Mais je t'assure que moi aussi.
Il a eu un doute, c'est dit, ah merde.
Et moi, je trouvais ça mignon, je dis, oh, la belle-maman d'Emmanuel, pas du tout.
Allez-y, Marie Chantal, sur le stylo à plumes.
Alors, moi, j'étais professeur d'art plastique et d'histoire de l'art, et notamment professeur principal pendant 25 ans. Et je faisais une séquence de calligraphie. Et je me suis rendu compte que les élèves, une fois qu'ils étaient passés par cette séquence, eh ben, écrivaient mieux avec le stylo BIC, pour pas citer de marque.
Ah,
et je trouve ça très intéressant de prendre du temps aussi de dessiner les lettres. Alors, comme c'est un tout petit collège, on n'avait pas trop les moyens, j'achetais pour les élèves des stylos plumes, et on a même travaillé au porte-plumes, et en fait, ils étaient tellement concentrés qu'ils apprenaient à dessiner la lettre, et ensuite, leur cahier était beaucoup mieux tenu.
Il était beau, en plus.
Voilà, donc, c'est plutôt une bonne idée, quand même, de pouvoir faire un peu de calligraphie à l'école.
Ouais.
Sinon, c'est l'appauvrissement de tout.
Je ne suis pas si vieux que ça, mais moi, j'avais mon maître d'école en CM1, CM2, il nous avait fait, on écrivait au porte-plumes avec l'encrier et tout dans nos trucs, et en fait c'est vrai que moi j'écris bien, j'ai une belle écriture parce que j'ai appris à écrire comme ça, hein.
Enfin, je
peux vérifier, je vais te dire, j'écris mieux, c'est même pas
un
rêve,
mais j'ai l'opinion de toi, hein.
Allez-y, Marie-Chantal.
De donner du temps au temps, comme tout à l'heure pour l'autoroute, mais je veux dire, voilà, réapprendre des gestes simples, voilà, mais à écrire.
Mais peut-être qu'on va. Moi, je pense qu'il y aura, il y aura sans doute un contre-effet de numérique, de tout ça, du virtuel. On va peut-être réapprendre à écrire, à apprendre le temps, oui, d'envoyer des lettres, de bien écrire.
Ouais, de prendre la nationale pour descendre et
La nationale pour descendre.
Prendre le temps, quoi, en fait. Oui, voilà, de tout.
C'est des phases de rémission, mais malheureusement.
La vraie richesse, c'est pas l'argent, c'est le temps. Quand t'as du temps, t'as tout gagné.
Oui.
Et aujourd'hui, on a le temps. On a le temps de rien.
Mais le temps, c'est de l'argent.
Mais Marie-Chantal, vous avez. Moi, je crois que je suis peut-être la dernière génération à avoir connu la
première guerre mondiale.
Moi aussi, hein, putain.
Avec l'encrier. Mais oui, j'ai entendu ça, va. Mais,
elle était très bonne, elle est jeune.
Faut que je retrouve mes premiers cahiers cours préparatoires et CE1. Je crois qu'ils sont encore,
ils sont encore
à l'encrier, à la plume. La plume sergent-major.
On se faisait engueuler.
Le L devait pas dépasser la troisième ligne, le D devait pas passer la deuxième.
Je suis pas contre le modernisme, mais je pense qu'on peut
faire les deux.
Les deux, quoi. Voilà.
Mais on peut faire les deux. On peut taper sur l'ordinateur et puis savoir bien écrire.
Mais non, mais bien sûr, en plus, c'est la base.
Il faut arrêter de vouloir tout simplifier aussi.
À Nice, à l'angle de la rue du lycée, il y avait une vieille maison qui s'appelle la maison Kreutz, qui était spécialisée dans le stylo à plumes.
Oui, c'est vrai.
Et je crois qu'il y en a encore quelques-uns à Paris tu as les grandes marques, tu avais les Parker, les Waterman, les Schaeffer.
Oui, Kreutz avec un K.
Moi, j'ai dit Schaeffer parce que la plume était plus large, la plume de Schaeffer. Parce que moi, j'ai appuyé un peu fort. Schaeffer, c'était moins, c'était large.
Bah oui, t'es pas très
Merci, Marie-Chantal, d'avoir été avec nous. Est-ce qu'on impose le stylo plume à l'école? Est-ce qu'on y revient, oui ou non? On va voir ce que vous en avez pensé. Regardez, oui à 60%.
Il y a eu un sondage il y a eu un gros écart.
Bonjour, Estelle Denis.
Salut Alain, salut les GG. Dans un instant, nous allons débattre, bien sûr, dans Estelle Midi, autour de la proposition d'Edouard Philippe, réduire la durée du chômage à 1 an pour les moins de 50 ans. Pour ou contre, eh bien écoutez, vous nous dites tout au 32-16. On vous attend. On parlera également du fils de Gisèle Pellicot, David Pellicot, qui a dénoncé le silence des hommes dans l'affaire Bruel. Il dit, ben voilà, les hommes doivent aussi prendre la parole dans ces débats-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que les hommes doivent prendre la parole? Eh bien là encore, on en débattra avec vous. À 12h30, on parlera également des Français qui boudent les grands axes. L'autoroute est-elle devenue un luxe? Est-ce que pour vous l'autoroute est trop chère, ou est-ce que tout simplement vous avez...
On a eu plein de gens qui nous ont dit non, on veut prendre le temps.
Ah oui.
On sort de l'autoroute, on consomme moins, on paye moins cher les sandwichs
et on découvre la France.
Et on découvre la France, madame.
Oui, non, mais ça, d'accord. Mais par exemple, là, ça va pour les vacances quand t'as 3 semaines. Mais pour un week-end, tu vas pas prendre la Nationale 7.
Enfin, sauf que c'est de plus en plus cher.
Tu vas moins loin.
Oui, c'est vrai, mais la voiture à 4, c'est quand même ce qu'il y a de plus rentable. Si
tu vas à Vierzon.
Tu vas à Vierzon, tu vas moins loin.
Moins le temps.
Oui, oui, vous me donnerez les bonnes adresses.
T'inquiète,
je n'y avais pas pensé.
Je t'en donnerai, Estelle.
Mais maintenant, vous me le dites, c'est certainement une erreur. Et puis, vous avez forcément croisé des camping-cars cet été. Ils ont squatté tout le littoral de France. Stationnement sauvage, incivilité. Les camping-cars sont-ils devenus un fléau? Alors, c'est vrai que c'est très sympa, comme ça, la slow life. Mais enfin, quand on a un camping-car qui nous bouche la vue.
L'année dernière, tu avais fait un voyage en camping-car.
En van aménagé. C'est différent. Je ne bouche la vue de personne, monsieur. Parce que je passe dans les. Vous savez, sous les barrières des parkings. Ah, mais quoi, 1,90 m. Les camping-cars, c'est quand même. C'était des gros tanks. Mais oui, c'est Maus.
Mais il y avait des parkings pour camping-cars, ça va?
Ah oui.
Oui, mais ça va quand ils sont loin, mais quand ils sont juste en face de la mer. C'est un peu gênant.
Ça vous aimait rien.
Hein.
Oh,
et
méchanceté.
Et puis, alors le tu préfères. Ah, on va parler pizza. Ah. Pizza base crème ou base tomate.
Mais la pizza avec de la crème, c'est pas une pizza, c'est une quiche.
Bah, elle a quatre fromages, elle est base crème.
Une quiche.
C'est l'exception. La pizza, c'est napolitaine. Hein. C'est tomate, un peu d'oignon, de l'origan et suivant. Hein.
Dis donc, tomate, tu cuisines, mais pas du tout. Toi, tu dois aimer les margaritas.
La pizza étalon qui te permet de juger une bonne pizzeria, c'est la marguerite, ça c'est sûr.
C'est la seule.
La margarita,
mais
c'est
pizza,
la base.
Faut mettre plein de trucs dessus.
Bah, l'ananas, par exemple.
Ah non, pas l'ananas. Je sais que c'est la folie d'Alain, mais.
Ah bon?
Mais non, tu prends supplément œuf, champignons.
Oh,
quel enfer.
Allez, bonne émission avec Estelle. Rendez-vous au 32-16 et nous, on se retrouve lundi 9h.